Un immense merci pour cette invitation. C'est une très grande joie pour moi d'être parmi vous en ce jour, en ce lieu. Je vais effectivement vous parler de l'anthropologie de Bonaventure, mais pas seulement de Bonaventure, puisque je vais d'abord parler de Saint-Irénée. En fait, vous allez voir, j'ai essayé de réunir un maximum de lyonnais d'adoption en tout cas, dans le cadre de cette conférence. Vous n'entendez rien? Certains entendent un petit peu, d'autres pas du tout. Donc je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Trop près? Et comme ça, ça va?
Ah. Et quand vous entendez comme ça, ça va?
Peut-être on fait le... Ouais, comme ça, ok, très bien. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Ah, voilà, on a trouvé la formule. Qu'y a-t-il de commun entre les deux grands docteurs de Lyon que sont Irénée et Bonaventure, si ce n'est bien sûr leur foi commune et leur lien avec la ville de Lyon? Et qu'est-ce qu'ils ont de commun à part ça? On sait que Bonaventure n'a jamais lu Irénée et l'habitude est prise depuis longtemps d'opposer l'anthropologie d'Irénée, censée être plus biblique, aux anthropologies médiévales, latines, dont celle de Bonaventure, qui sont censées être sous influence augustinienne, donc, imagine-t-on, néoplatoniciennes, dualistes, surtout lorsque ces anthropologies latines ne tiennent pas compte des enseignements d'Aristote. Donc en général, quand on envisage les anthropologies des médiévaux latins et celles d'Irénée, c'est plutôt pour les opposer. Quelle est généralement notre vision de l'histoire de l'anthropologie chrétienne? Je vais faire un résumé, c'est quelque chose que tout le monde a plus ou moins à l'esprit. Au commencement, il y a le modèle anthropologique biblique qui traite l'homme comme un tout, comme une unité. Anthropologie dont le meilleur représentant chez les pères de l'Église est Irénée. Et puis, il y a les pères qui se sont laissés influencer par une anthropologie grecque, plus dualiste, qui oppose l'âme et le corps. Parmi eux, on range souvent saint Augustin. Or, Augustin, comme vous le savez, est le père de l'Église par excellence pour les médiévaux latins. Et son règne est sans partage dans la pensée jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'au début du XIIIe siècle. Donc, c'est la conclusion qui s'ensuit, les maîtres latins, dont saint Bonaventure, qui sont sous influence augustinienne, sont nécessairement des penseurs dualistes qui opposent l'âme et le corps. C'est ce qu'on pense en général. Heureusement, suite de l'histoire, la traduction des livres d'Aristote, ceux qu'on appelle les livres naturels, dont le fameux traité de l'âme, ont permis de changer la donne et de retrouver une anthropologie plus unitaire, puisque pour Aristote, l'âme est la forme du corps. L'assimilation d'Aristote par les maîtres médiévaux de ce temps, notamment par Thomas d'Aquin, aurait alors permis aux théologiens chrétiens de retrouver, en quelque sorte, par l'intermédiaire d'Aristote, mais de retrouver le sens de l'unité de l'homme qui aurait été perdu à cause d'Augustin. Et de ce fait, on a pu sortir du dualisme, au moins jusqu'à Descartes, jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle, le dualisme nous rattrape, finalement, ce dualisme, on aurait commencé à en sortir à nouveau qu'au XXe siècle, avec des gens comme Merleau-Ponty, par exemple. Alors, c'est une histoire assez implicite, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas de livre, à ma connaissance, où les choses sont dites de manière aussi brutale, mais En réalité, c'est une vision de l'histoire de l'anthropologie chrétienne qui est extrêmement répandue et qui a la vie dure. Et je pense que cette vision de l'anthropologie chrétienne, de son histoire, est non seulement caricaturale, mais fausse. C'est ce que je vais essayer de montrer en étudiant nos deux auteurs. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas que d'une question historique. Bien sûr, l'histoire a son importance, mais cette manière de concevoir l'histoire de l'anthropologie chrétienne a des conséquences sur la manière dont nous nous rapportons à notre tradition tout entière, et en particulier à notre tradition latine médiévale. C'est-à-dire que nous y voyons d'emblée une déformation des enseignements bibliques, une spiritualisation excessive de l'anthropologie, voire l'invention de dogmes qui résulteraient d'une conception de l'homme qui n'est pas fondamentalement chrétienne. Alors, ce que je veux montrer tout au contraire, pour ma part, c'est la remarquable continuité qui existe entre nos deux auteurs, en dépit des péripéties subies par les textes d'Irénée, puisque les textes d'Irénée étaient perdus au Moyen-Âge. En dépit aussi des contextes très différents dans lesquels ils ont vécu, bien sûr. Autrement dit, j'aimerais faire ressortir la cohérence générale de l'anthropologie chrétienne. L'anthropologie chrétienne doit toujours respecter les mêmes critères pour demeurer chrétienne. Donc en fait, il n'y a pas 50 000 combinaisons possibles. C'est bien ce que nous montrent Irénée et Bonaventure. Alors j'ai un prédécesseur illustre en la matière, c'est le cardinal de Lubac. Puisque dans Théologie dans l'Histoire, le cardinal de Lubac avait préparé tout un dossier qu'il aurait aimé exploiter davantage, en particulier sur cette anthropologie tripartite corps, âme, esprit, dont il a voulu montrer qu'en fait, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, elle avait perduré tout au long de l'histoire de l'Église jusqu'au XXe siècle. Et il regrettait, au moment où il écrivait ces lignes, où il constituait ce dossier, il regrettait que les théologiens catholiques en particulier aient plus ou moins abandonné cette tripartition. Mais il était convaincu pour sa part qu'elle n'avait pas été perdue par Augustin au cours de l'histoire. Le deuxième élément que je veux mettre en évidence, c'est le fait qu'il ne faut pas confondre dualité et dualisme, au risque de jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut très bien être anti-dualiste, et un chrétien bien formé doit l'être, je pense, on peut très bien être anti-dualiste et considérer en même temps qu'il y a une distinction entre l'âme et le corps. C'est-à-dire, la distinction entre l'âme et le corps, ce n'est pas la même chose que l'opposition de l'âme et du corps. Et même, non seulement il y a possible distinction entre l'âme et le corps, mais même il y a une possibilité de séparation des deux dans la mort, ce qui est l'enseignement d'Irénée lui-même, même si cette séparation, bien sûr, n'est ni normale ni définitive. Autrement dit, il y a un primat de l'unité, c'est vrai, mais cela ne doit pas nous conduire à nier la distinction entre le corps et l'âme. Parce qu'il y a, il faut respecter ce double critère, unité et différence. Unité et diversité qui vont ici ensemble. Alors pour démontrer ces deux points, c'est-à-dire la continuité de l'anthropologie chrétienne dans son histoire et la dualité qui n'est pas la même chose que le dualisme, je vais développer mon propos en trois temps inégaux. Tout d'abord, je vais parler d'Irénée. Je vais rapidement rappeler les traits principaux de son anthropologie. Ensuite, je parlerai de saint Augustin. Que dit vraiment saint Augustin de l'anthropologie, de l'unité de l'homme, puisqu'on accuse souvent Augustin de tous les maux, et je m'appuierai en particulier sur la cité de Dieu. Et enfin, je traiterai de l'anthropologie de Bonaventure, qui n'a pas lu Irénée, je le répète, et qui professe pourtant la même doctrine, certes dans un contexte différent, avec un vocabulaire différent, mais vous verrez que c'est exactement la même anthropologie. Alors premièrement, ce que dit Irénée. Ça va, vous m'entendez toujours bien ? Irénée est connu pour avoir développé une thèse selon laquelle l'homme est composé de trois éléments, corps, âme, esprit. Cette anthropologie, que Henri de Lubac appelait une anthropologie tripartite, trouve sa source en réalité chez saint Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, 5:23, je cite Paul, « Que le Dieu de paix vous sanctifie en sorte que vous soyez pleinement achevés et que votre être intégral, à savoir votre corps, votre âme et votre esprit, soit conservé sans reproche pour l'avènement du Seigneur Jésus. » Cette anthropologie tripartite, vous le voyez, corps, âme, esprit, est en même temps profondément unifiée, puisque Irénée, comme Paul d'ailleurs, n'oppose jamais ces éléments les uns aux autres. Vous savez qu'il ne faut pas confondre l'opposition que fait Paul entre la chair et l'esprit, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et la distinction, qui n'est pas une opposition, entre le corps et l'âme. Entre soma et psyché en grec. Donc, Irénée s'inspire de cette source paulinienne pour constituer sa propre anthropologie. La redécouverte des écrits d'Irénée au XXe siècle a permis d'espérer que l'on allait pouvoir en finir avec le fameux dualisme supposé de Platon. Supposé avoir été relayé par Augustin et ses lecteurs. Enfin, avec Irénée, pensait-on, on allait pouvoir revenir à la véritable anthropologie biblique contre toute cette tradition latine qu'on jugeait, explicitement ou pas, mortifère. Et donc, dans les années 1960, en France en particulier, il y a eu toute une vague d'auteurs, Bulteau, Claude Trémontant, etc., qui ont assimilé la distinction entre l'âme et le corps à du dualisme, comme si distinction et opposition étaient la même chose. Et donc, ils ont considéré que la distinction entre l'âme et le corps était contraire à l'anthropologie biblique. Et ils pensaient pouvoir s'appuyer sur certains pères de l'Église et sur Aristote pour le montrer. Le but, en fait, était généralement de relativiser, si possible, de marginaliser l'anthropologie augustinienne, qui était considérée comme pessimiste, comme platonicienne, bref, comme dualiste. Et comme Irénée était le grand pourfendeur du dualisme dans l'histoire de la pensée de l'Église, puisqu'Irénée a été en polémique avec les gnostiques qui méprisaient la matière, méprisaient le corps, eh bien, Irénée était le candidat idéal à promouvoir contre l'anthropologie augustinienne et celle de Bonaventure, puisque Bonaventure est un disciple en quelque sorte d'Augustin. Que veut-on dire lorsqu'on parle d'une anthropologie biblique? On rappelle que le mot chair, bassar en hébreu, ou l'expression âme vivante qu'on voit dans certaines traductions de la Bible qui traduit l'hébreu nefesh, ces mots chair ou âme vivante désignent en fait tout l'homme tout entier, voire parfois tous les vivants, animaux et plantes compris. Et de ce fait, ces expressions que la Bible utilise pour parler de l'homme montrent que l'homme est envisagé de manière unitaire. Corps et âme, autrement dit, sont deux mots pour désigner une seule et même réalité. Certains sont allés jusqu'à dire qu'en ce sens, il n'y a pas d'immortalité de l'âme dans la Bible. C'est le cas de Claude Trémontant, par exemple, dans un livre qui s'appelle « Le problème de l'âme ». Alors, je passe sur le caractère parfois excessif de cette lecture anti-grecque et anti-dualiste de la Bible. Et pour ceux que cette question intéresse, je renvoie au très beau livre de Joseph Ratzinger, traduit en français sous le titre « La mort et l'au-delà », puisqu'il traite parfaitement bien cette question. Donc, il y a dans la Bible effectivement une anthropologie unitaire. Mais qu'apprend-on en lisant Irénée? Je m'appuierai ici, une fois de plus, sur les analyses d'Henri de Lubac dans sa théologie dans l'histoire, mais aussi sur celle du père Adelin Rousseau, qui est un traducteur d'Irénée, qui a écrit tout un dossier sur cette question de l'anthropologie irénéenne. Chez Irénée, l'anthropologie de base en fait, est bipartite. C'est-à-dire que l'homme, dans sa première composition, dans l'anthropologie de base, en fait, c'est celle du composé corps-âme. La tripartition paulinienne corps-âme-esprit s'applique en réalité à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, comme le dit explicitement Irénée. Le père Adelin Rousseau a fait la liste des textes qui permettent de ne pas confondre l'homme comme tel, qui est l'union d'une âme et d'un corps, et puis l'homme parfait ou l'homme spirituel. Alors l'homme parfait ici, ça veut dire l'homme complet, l'homme achevé. Et cet homme parfait, cet homme spirituel, c'est celui qui a reçu l'Esprit Saint. Alors, je donne un exemple dans un livre d'Irénée qui s'appelle « La démonstration de la prédication apostolique », qui est une catéchèse en fait. Au paragraphe 2, on peut lire ceci « L'homme est un vivant composé d'une âme et d'un corps ». Et il écrit un peu plus loin « Ces choses, c'est-à-dire l'âme et le corps, ces choses se réjouissent ensemble et s'allient pour mener l'homme à Dieu. » Formule qui annonce de manière tout à fait étonnante celle d'Alcher de Clairvaux, un cistercien du XIIe siècle, qui n'a pas pu lire Irénée, je cite Alcher, « D'une certaine façon, le corps et l'âme, c'est-à-dire le corps suprême et l'âme infime, sont semblables. Sans confusion des natures, mais par l'union personnelle, ils peuvent facilement être conjoints. Les semblables se réjouissent en effet des semblables. » Alors, le père Adelin Rousseau renvoie à 5 textes importants qui montrent bien que l'anthropologie de base pour Irénée, c'est celle du composé âme-corps. Je vais en citer seulement 3. Dans la troisième partie, dans le troisième livre du grand ouvrage de saint Irénée contre les hérésies, on peut lire ceci. « Nous sommes un corps tiré de la terre et une âme qui reçoit de Dieu l'Esprit. Tout homme, quel qu'il soit, en conviendra. » Deuxième extrait, dans le livre 4 cette fois, « L'homme est un mélange d'âme et de chair. » Troisième extrait, dans le livre 5, encore plus limpide, c'est notre substance, c'est-à-dire le composé d'âme et de chair, qui, en recevant l'Esprit de Dieu, constitue l'homme spirituel. Donc là, on voit bien l'articulation des deux compositions, si on peut dire, à savoir la première, c'est-à-dire le simple composé d'âme et de chair, que nous sommes tous. Et puis la deuxième composition qui nous est en quelque sorte proposée, celle par laquelle Dieu entre dans notre composition, entre dans notre vie en faisant habiter en nous son esprit. Alors, de ce fait, quelle anthropologie obtient-on avec Irénée? Eh bien, tout simplement la même que celle de Paul et de la Bible, bien comprise. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une distinction entre l'âme et le corps. Philippe Descola, d'ailleurs, qui est anthropologue au Collège de France, a rappelé assez récemment, dans un livre qui s'appelle « Par-delà nature et culture », que, contrairement au couple nature-culture, la distinction âme-corps est un universel. Alors, pour qu'un anthropologue dise que quelque chose est universel, c'est que vraiment c'est du solide. Donc Philippe Descola dit « Mais cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur chez les êtres humains est quelque chose qui se trouve dans toutes les cultures, exprimée de manière différente, dans des contextes différents, mais c'est quelque chose d'absolument fondamental. » Donc, il n'est pas très étonnant de retrouver ça, de retrouver cette idée dans la Bible, à la fois l'union de l'âme et du corps et en même temps leur distinction. L'homme est donc le mélange et l'union de l'âme et du corps. Son corps, c'est lui-même, son âme, c'est encore lui-même. Il s'agit donc de ce qu'Augustin appelle dans la Cité de Dieu une unité de diversité. Il y a un très beau passage où Augustin dit ceci, c'est au livre 12 de la Cité de Dieu, « L'unité en plusieurs est agréable à Dieu. Alors évidemment, il pense à la Trinité, mais ce modèle trinitaire de communion de différents, cette unité en plusieurs, c'est aussi le modèle de toute société, société de l'âme et du corps, société de l'homme et de la femme, société politique. Donc, à ce premier composé, celui de l'âme et du corps, vient s'ajouter ou non l'Esprit de Dieu qui vient achever, en quelque sorte, ce que nous sommes. Esprit de Dieu que l'homme seul peut recevoir parce que son âme, son intériorité, possède les qualités nécessaires à cette réception. On pourrait dire qu'elle possède la pauvreté nécessaire, la capacité, au sens de la capacité d'un récipient. On peut interpréter le sens du mot capacité en deux sens. Quand on dit que l'homme est capable de Dieu, comme saint Augustin, eh bien, cette capacité ne renvoie pas souvent à des super pouvoirs, à des compétences extraordinaires. La capacité, c'est aussi un creux, un vide qui se trouve dans le cœur humain et qui fait que Dieu peut venir s'y installer. Parce qu'il y a une pauvreté fondamentale où Dieu peut trouver sa place. Donc Irénée l'explique parfaitement dans le texte peut-être le plus connu du Contre les hérésies, au livre 5, où il commente deux textes de Paul à la fois, à savoir la première épître aux Corinthiens, 15-44, et puis la première épître aux Thessaloniciens, que je citais tout à l'heure. Alors je lis quelques passages du Contre les hérésies, chapitre 5, paragraphe 6. Enfin, livre 5, chapitre 6, plus exactement. L'âme et l'esprit peuvent être une partie de l'homme, mais nullement l'homme. L'homme parfait, c'est le mélange et l'union de l'âme qui a reçu l'esprit du Père et qui a été mélangée à la chair modelée selon l'image de Dieu. Je saute quelques lignes. Ces hommes-là, on est en train de parler des hommes qui ont des charismes, l'apôtre Paul les nomme également spirituels. Spirituels, ils le sont par une participation de l'esprit, mais non par une évacuation et une suppression de la chair. En effet, si l'on écarte la substance de la chair, c'est-à-dire de l'ouvrage modelé, pour ne considérer que ce qui est proprement esprit, une telle chose n'est plus l'homme spirituel, mais l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu. En revanche, lorsque cet esprit, se mélangeant à l'âme, s'est uni à l'ouvrage modelé, grâce à cette effusion de l'esprit, se trouve réalisé l'homme spirituel et parfait. Et c'est celui-là même qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand au contraire l'esprit fait défaut à l'âme, poursuit Irénée, un tel homme, restant en toute vérité psychique et charnel, sera imparfait, inachevé, possédant bien l'image de Dieu dans l'ouvrage modelé, mais n'ayant pas reçu la ressemblance par le moyen de l'esprit. Donc on voit bien dans ce passage ces deux temps, en quelque sorte, de l'anthropologie irénéenne. D'abord, l'homme inachevé, qu'il appelle aussi à la suite de Paul l'homme psychique, le simple composé d'âme et de corps, qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Et puis, deuxième temps, celui de l'homme achevé, parfait, spirituel, qui n'est pas un pur esprit, nous dit Irénée. Il ne faut pas confondre la vie dans l'esprit et une vie purement spirituelle. Ce n'est pas un pur esprit, mais c'est un composé d'âme et de chair qui a reçu l'Esprit de Dieu. Et cette deuxième unité vient renforcer la première. Donc on voit qu'Irénée, c'est ma conclusion sur Irénée, se fait le porte-parole d'une anthropologie dynamique. L'homme modelé à l'image de Dieu, dans sa constitution originelle, est bien l'union d'une âme et d'un corps, mais il est appelé à vivre de l'Esprit de Dieu, au point que Dieu fasse en quelque sorte partie du composé humain et qu'il soit la vie de sa vie. Les choses étant clarifiées au sujet d'Irénée, donc nous allons voir maintenant si cela est si différent on l'a dit, chez saint Augustin. Donc, deuxième partie, ce que dit vraiment Augustin. Est-ce que l'héritage de saint Irénée s'est perdu chez les latins? À commencer par Augustin. Matériellement, oui, puisque assez rapidement, les écrits d'Irénée ont disparu de la circulation. Grégoire le Grand, par exemple, au VIe siècle, confesse qu'il n'a pas accès aux livres d'Irénée. Quant à Augustin, on pense qu'il a eu un accès simplement indirect à Irénée, mais il n'a jamais pu le lire par lui-même. Malgré tout, si l'héritage matériel d'Irénée est perdu à cette période-là, je pense que son héritage intellectuel ne l'est pas, pas complètement. Parce que ce sont les mêmes écritures et le même esprit qui inspirent les penseurs chrétiens, par-delà la diversité de leur culture, de leur vocabulaire, de leur formation intellectuelle. Et c'est le même esprit qui est à l'œuvre, même si les formulations fraîches, limpides, énergiques d'Irénée ne sont plus présentes, c'est vrai. Malgré tout, l'anthropologie chrétienne a des exigences particulières, je le disais tout à l'heure, qui font qu'on ne peut pas s'écarter tant que cela des positions d'Irénée, à moins d'adopter une anthropologie qui n'est justement plus chrétienne. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'Henri de Lubac a très bien montré la permanence de la tripartition paulinienne à travers les siècles dans théologie dans l'histoire, de Saint Paul jusqu'à des auteurs du XXe siècle, Paul Claudel par exemple. Il évoque très rapidement Augustin et Bonaventure, Saint François de Sales aussi, et moi j'aimerais simplement mettre un peu plus l'accent sur Augustin et Bonaventure, puisqu'il n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'il voulait en dire, en réalité. Alors, pour ce qui concerne Augustin, comme je le disais tout à l'heure, il a été accusé très souvent d'avoir adopté une anthropologie platonicienne, supposée être dualiste, non biblique en tout cas. Pour montrer qu'il en va tout autrement, je vais m'appuyer sur des ouvrages de la maturité d'Augustin. Parce que souvent, pour prononcer ce jugement négatif contre Augustin, on s'appuie sur les ouvrages qu'il a écrits au tout début de sa conversion, lorsqu'il sortait tout juste de chez les Manichéens et qu'il n'était pas encore l'Augustin de qui a écrit le traité sur la Trinité, la cité de Dieu, la Genèse au sens littéral. Voilà. Donc, je préfère utiliser ici les ouvrages où Augustin a atteint la pleine maturité de son anthropologie après avoir remâché la Bible et en particulier la Genèse. Pour commencer, je vais m'appuyer sur un très bel article d'Isabelle Baucher, spécialiste de saint Augustin, un article paru assez récemment dans la Revue des études philosophiques et théologiques. C'est un article où elle étudie la manière dont Augustin utilise un verset du livre de la Sagesse, Sagesse 9.15, que je cite, « Le corps qui se corrompt appesantit l'âme et sa demeure de terre accable l'esprit aux multiples pensées. » Isabelle Baucher montre comment, dans ses tout premiers écrits, Augustin interprète cette phrase en néoplatonicien. « La matière nous alourdit, elle nous empêche de contempler la vérité. » Et puis très rapidement, on voit qu'Augustin prend ses distances avec toute trace de mépris du corps. Et il souligne que ce n'est pas le corps en tant que tel qui appesantit l'âme, mais le corps corruptible, le corps en tant qu'il est corruptible, c'est-à-dire le corps lui-même appesanti par le péché originel et par la mort qui en résulte. Ce qui fait qu'il en vient à produire une exégèse tout à fait différente de ce que l'on aurait pu imaginer. Le corps, explique Augustin, n'appesantit l'âme qu'en tant qu'il est corruptible et désormais placé dans une condition peineuse, pénible. Mais justement, dit Augustin, justement, cela vient de l'âme elle-même. C'est du mal que nous avons nourri intérieurement qu'est venue la corruption du corps. Donc cela signifie qu'Augustin se sert de Sagesse 9.15 pour innocenter le corps, face à des interlocuteurs aussi différents que les néoplatoniciens, les manichéens ou les pélagiens, comme Julien Desclanes. Il me semble que cette démonstration d'Isabelle Bauchet consonne tout à fait avec l'évolution générale de l'anthropologie d'Augustin. Donc, je vais évoquer rapidement trois points qui le montrent. Premièrement, la bonté de la chair et des choses matérielles. Deuxièmement, l'union et la distinction de l'âme et du corps. Troisièmement, la question de la divinisation de l'homme. Donc, sur le premier point, la bonté de la chair et des choses matérielles, je vous lis un petit extrait de la Cité de Dieu au livre 14. Prétendre que la chair est cause de l'immoralité et de tout vice quel qu'il soit, que l'âme vivante ainsi n'obéit qu'aux impulsions de la chair, c'est ne pas méditer sérieusement sur toute la nature de l'homme. Ce corps corruptible nous appesantit, mais comme ce n'est que la corruption et non la substance du corps qui nous accable, nous ne voulons pas être dépouillés de ce corps, mais nous voulons revêtir l'immortalité qui l'attend. C'est une citation de Paul, en fait, une quasi-citation. Quiconque attribue au corps l'origine de tous les maux est dans l'erreur. L'enseignement de notre foi est tout différent. Car cette corruption du corps qui appesantit l'âme n'est point la cause, mais la peine du péché. Et ce n'est point la chair corruptible qui a rendu l'âme pécheresse, mais c'est au contraire l'âme pécheresse qui a rendu la chair corruptible. Et quoique de la corruption de la chair naissent certains attraits vers le vice, certains désirs déréglés, gardons-nous bien toutefois d'attribuer à la chair tous les désordres de la vie, car ce serait justifier le démon qui n'a pas de chair. C'est l'argument imparable. Le plus grand pécheur, pécheur impénitent en l'occurrence, n'a pas de corps. Donc ça montre bien que le problème ne se situe pas dans le fait d'avoir une chair, mais, comme le dit Augustin, dans la qualité de la volonté. En fait, dans la Cité de Dieu, comme dans d'autres livres d'Augustin assez nombreux, Augustin insiste beaucoup sur le fait que toute nature est bonne puisqu'il y a un créateur unique et qu'il est bon. Le mal, par conséquent, ne peut pas être associé à une nature. Il provient nécessairement d'une déficience de la volonté. Je donne un autre exemple, toujours dans le livre 14 de la Cité de Dieu. Nos excès et nos vices n'exigent nullement que nous élevions contre la nature de la chair une accusation injurieuse au Créateur, car dans son genre et dans son ordre, la chair est bonne. Mais délaisser le Créateur tout bon pour vivre selon un bien créé, c'est-à-dire préférer les biens créés à Dieu lui-même, cela n'est pas bon. Soit que l'on se décide à vivre selon la chair ou selon l'âme, ou selon l'homme, qui se compose de l'âme et du corps. Donc vous voyez que toutes ces formulations sont équivalentes pour Augustin. Vivre selon la chair, c'est comme vivre selon l'âme, c'est comme vivre selon l'homme, c'est-à-dire l'homme qui se prend lui-même pour principe et fin de sa propre vie. C'est la vie selon la chair de saint Paul, en fait. Je continue. Louer, en effet, comme le souverain bien, la nature de l'âme, et condamner comme un mal, celle de la chair, c'est aimer l'une et fuir l'autre charnellement, au gré de l'imagination humaine et non de la vérité divine. Donc ce que dit Augustin ici est très fort, c'est que ceux qui méprisent le corps et ne valorisent que l'âme sont en fait des hommes charnels. Ils vivent selon la chair. Les sages platoniciens ou stoïciens, c'est un exemple que prend Augustin, vivent selon la chair, tout spirituel qu'ils ont l'air d'être. Et Augustin conclut ce passage en disant « Ce qui importe, c'est le caractère de la volonté de l'homme. » Alors il faudrait citer encore beaucoup d'extraits où Augustin défend la bonté de la création tout entière contre ceux qui imaginent qu'il y a un mauvais démiurge, par exemple. Mais ce qui me semble important ici, c'est la manière dont Augustin utilise de manière parfaitement limpide les catégories polyméniennes reprises par Irénée de vie selon la chair ou vie selon l'homme, comme il dit, et vie selon l'esprit ou vie selon Dieu. Sur le deuxième point, c'est-à-dire l'union et la distinction de l'âme et du corps. Cela ne fait pas de doute, Augustin adhère lui aussi à cette anthropologie de base. L'homme est d'abord un composé d'âme et de corps. L'homme, ce n'est ni l'esprit seul, ni le corps seul, mais l'union des deux. Je cite la Cité de Dieu au livre 13. L'homme, ce n'est pas le corps seul, ce n'est pas l'âme seule. L'homme, c'est l'être composé de l'âme et du corps. Or, c'est la vérité que l'âme n'est pas tout l'homme, mais la partie supérieure de l'homme, et que le corps n'est pas tout l'homme, mais la partie inférieure de l'homme. Et c'est l'un et l'autre qui, réunis, portent le nom d'homme. On ne peut pas être plus clair. Autre passage au livre 19, l'homme, c'est un passage que cite d'ailleurs Thomas d'Aquin dans la Somme de théologie, l'homme n'est ni l'âme seule ni le corps seul, mais l'âme et le corps. Et le souverain bien et souverain bonheur de l'homme se compose du bien de l'une et de l'autre, l'âme et le corps. Troisième point, celui de la divinisation de l'homme. Divinisation de l'homme et insertion de l'Esprit Saint dans le composé. Eh bien, ici, nous avons vraiment le même son de cloche que chez Saint-Irénée. Augustin repart de la distinction paulinienne entre la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. La vie selon la chair désigne très logiquement chez lui la vie de l'homme en tant que simple composé d'âme et de chair, c'est-à-dire une vie d'homme simplement autosuffisante. Et donc à ce titre, précise Augustin, même l'austère sage stoïcien vit selon la chair. C'est ce qu'il dit au livre 14 de la Cité de Dieu. Alors que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, fut-il l'homme le plus petit, le plus pauvre, le plus simple, eh bien celui-là vit selon l'Esprit. Je cite Augustin, livre 14. Ce n'est point en tant qu'il est dans la chair, mais en tant qu'il vit selon lui-même que l'homme devient semblable au diable. Il veut être heureux, mais en ne vivant pas comme il faut pour l'être. Comme il faut, ça veut dire inspiré par Dieu, hein, vivre par lui, avec lui et en lui, comme dit Saint Bonaventure. Puisque le péché, c'est prétendre vivre hors de Dieu. Je poursuis la citation. Il existe, ai-je dit, deux cités différentes et contraires, celle des hommes vivant selon la chair, celle des hommes vivant selon l'esprit. Je pourrais dire aussi celle des hommes qui vivent selon l'homme, celle des hommes qui vivent selon Dieu. Saint Paul dit clairement aux Corinthiens, puisqu'il s'élève encore parmi vous des rivalités et des divisions, n'est-il pas étonnant que vous êtes charnels et que vous marchez selon l'homme ? Marcher selon l'homme, conclut Augustin, marcher selon l'homme, c'est donc être charnel. Car encore une fois, la chair, c'est l'homme tout entier. Auparavant, au livre 13, Augustin avait bien marqué la différence entre l'âme vivante qui fait vivre le corps et qui, dans le cas de l'homme, comporte des aptitudes rationnelles, une volonté libre, et puis d'autre part, l'esprit vivifiant, qui est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Dans la partie la plus profonde et la plus intime de l'âme. Et comme Irénée, Augustin lit la Genèse à la lumière de Saint Paul, c'est sa boussole. Et donc c'est la venue de l'Esprit de Dieu en nous qui fait de nous des hommes spirituels, tout simplement. Tout simplement, non pas des anges, mais des hommes spirituels avec un corps de limon, précise Augustin. Un vrai corps. Donc, conclusion sur Augustin, sa position sous le triple aspect que je viens d'évoquer me semble en réalité très proche de la position d'Irénée, malgré, bien sûr, un bagage philosophique différent et un vocabulaire parfois différent. Mais on voit que l'essentiel de l'anthropologie irénéenne, en réalité, est maintenu. Il nous reste maintenant à voir ce qu'il advient de cet héritage anthropologique chez Bonaventure, lecteur médiéval d'Augustin. Donc c'est la troisième partie. Bonaventure n'a pas lu Irénée, ni directement, ni même indirectement. Mais c'est un grand lecteur des Écritures, un grand lecteur d'Augustin, et c'est aussi un grand lecteur de la riche anthropologie du XIIe siècle, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, en particulier l'anthropologie des Cisterciens et des Victorins. Et de ce fait, d'une manière tout à fait logique, il retrouve l'anthropologie chrétienne, biblique et gréco-latine d'Irénée. Alors je vais reprendre les mêmes trois points que chez Augustin. Tout d'abord, la bonté de toute nature et du corps en particulier. Sur ce point-là, Bonaventure appelle l'enseignement sans équivoque d'Augustin contre les manichéens et l'enseignement d'Irénée contre les gnostiques, à savoir, s'il y a du mal, il vient toujours d'une volonté qui se corrompt, qui se détourne de Dieu, mais jamais d'une nature faite par Dieu, d'une créature faite par Dieu, puisque toute créature, telle que Dieu l'a faite, est bonne. Je cite le Brevi Loquium, partie 3. Le mal est retrait vis-à-vis du premier principe par le fait qu'il nuit au bien. Le bien naturel se trouve dans toute nature. Ou encore, toujours dans la troisième partie du Brevi Loquium, chapitre 8, le péché est un éloignement de la volonté par rapport au premier principe. En tant que la volonté est faite pour agir à partir de lui, selon lui et par lui. En fait, c'est le résumé de la vie dans l'esprit pour Bonaventure. C'est très simple, c'est la vie par lui, avec lui et en lui, selon lui. Comme chez Irénée et Augustin. Donc, tout péché est un détournement de l'esprit, là c'est Bonaventure qui parle, c'est-à-dire de la volonté qui, par nature, est capable de vertu ou de vice. Donc, il n'y a pas de nature mauvaise, seule la volonté libre, qui est une bonne et grande chose par nature, seule la volonté libre est susceptible d'introduire le mal dans le monde, c'est-à-dire de se détourner de Dieu. Pour confirmer cela, j'invoque le commentaire de l'Ecclésiaste qui a composé Bonaventure au début de sa carrière universitaire. Il y a un très beau passage où Bonaventure écrit que celui qui méprise le monde, ou quelque nature que ce soit, quelque créature que ce soit, celui-là méprise Dieu qui est le créateur de toute nature. Donc il ne faut pas confondre les deux sens du mot monde, bien sûr. Le monde en tant que créature de Dieu, comme dit Bonaventure, et puis le monde au sens joannique du terme qui nous renvoie à la mondanité dont parle souvent le pape François. Il faut bien distinguer les deux plans. Deuxième point, celui de l'union et de la distinction de l'âme et du corps. Bonaventure a beaucoup réfléchi à cette question de l'union de l'âme et du corps, et on peut dire d'une manière plus approfondie qu'Irénée et Augustin. Bonaventure considère, à la suite d'Augustin, que ce qui fait l'homme, c'est bien cette union, et qu'on ne peut pas réduire un homme à l'une ou à l'autre de ses parties, âme ou corps. Il le dit, par exemple, dans un passage où il parle du Christ mort, le Christ au tombeau. Lorsque le Christ est mort, explique Bonaventure, il n'était plus un homme, puisque son âme et son corps étaient séparés. Sa personne divine demeurant évidemment intacte dans le Verbe et demeurant unie à son âme et à son corps séparés. Donc la personne est vivante, mais l'homme, lui, est mort. Je cite Bonaventure, Brevi Loquium, partie 4. L'union de l'âme avec le corps fait un homme et le fait vivant. Le Christ n'était plus homme durant les 3 jours de sa mort. Bien que son âme et sa chair soient demeurées unies au Verbe, chacune de leur côté, en quelque sorte. Mais la mort dans la nature humaine ne pouvait entraîner la mort dans la personne divine qui a toujours été vivante. Donc je pense qu'on ne peut pas dire plus clairement qu'un homme consiste dans l'union de l'âme et du corps, c'est cette union qui fait l'homme. C'est la raison pour laquelle le Christ mis à part, puisqu'il est une personne divine, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire, pour Bonaventure et pour son maître Alexandre de Halès, on ne peut pas dire que l'âme d'un défunt est une personne à part entière. L'âme d'un défunt, c'est quelque chose de la personne. Mais ce n'est pas la personne tout entière. La personne n'est restaurée que par la réunion de l'âme et du corps au moment de la résurrection. Bonaventure a consacré de magnifiques réflexions aux modalités de l'union de l'âme et du corps, à la suite des cisterciens, qui avaient une réflexion très, très riche à ce sujet. Je vous cite un texte parmi beaucoup d'autres qui lui permet de montrer la beauté de cette union, qu'il pense sur le modèle conjugal, comme les cisterciens du XIIe siècle. Alors pourquoi le modèle conjugal ? Bien, pour la raison que j'invoquais tout à l'heure, c'est parce que le modèle conjugal, c'est celui d'une union de diversité, d'une union de différence. Je cite le Breviloquium, partie 2, chapitre 10. Pour que se manifeste la sagesse de Dieu, il fit ce corps de manière qu'il soit proportionné à sa façon à l'âme. Donc, puisque le corps est uni à l'âme comme à ce qui l'achève, le meut et l'élève à la béatitude, pour qu'il soit conformé à ce qui le meut par la multiformité des puissances, il a reçu une multiformité d'organes, d'une élégance, d'un art et d'une docilité suprême, comme on le voit, par exemple, dans le visage et dans la main, qui est l'organe des organes. C'est une formule d'Aristote. L'instrument des instruments. Et pour être conformé à l'âme qui l'élève vers le ciel, il reçut la station debout et la tête dressée vers le haut pour que la rectitude du corps témoigne de la rectitude de l'esprit. Ça, c'est un aspect de l'anthropologie bonaventurienne qui est très intéressant. C'est le fait que pour Bonaventure, le corps est la visibilité et l'expression de l'âme. Et plus un être humain est animé par l'esprit de Dieu, et plus cette manifestation de l'âme dans le corps est riche et évidente. Même si la personne est par ailleurs fragile, malade, défigurée, plus l'esprit de Dieu est présent et plus la relation d'intimité entre l'âme et le corps est forte. Je cite l'Exaïméron, les conférences sur les six jours de la création, conférence 22. Dans l'homme spirituel, dit Bonaventure, tout ce qui est dans le corps dérive de la tête. Ou encore, dans l'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu, au sujet de François d'Assise, l'esprit dans la chair se voyait. Alors en fait, Bonaventure est en train de parler de François stigmatisé, c'est-à-dire l'amour pour le Christ qui l'habitait intérieurement et l'amour du Christ qui demeurait en lui, c'est exprimé visiblement dans ses stigmates, par lesquels son identification au Christ devenait quelque chose de visible. Donc ça signifie bien que l'union de l'âme et du corps, pour Bonaventure, n'est pas un attelage de briques et de brocs, accidentel, provisoire. Non, pour Bonaventure, l'union de l'âme et du corps est essentielle à l'un et à l'autre. Et elle aurait dû être indissoluble. La séparation de l'âme et du corps dans la mort, pour Bonaventure comme pour Augustin et Irénée, n'est que le signe et la conséquence d'une rupture plus fondamentale entre l'homme et Dieu. Troisième et dernier point, la divinisation de l'homme chez Bonaventure. Comment Bonaventure conçoit-il l'inhabitation de l'Esprit de Dieu dans le composé humain, le composé âme-corps ? Sa doctrine sur ce point est beaucoup plus développée que celle d'Irénée et plus ordonnée que celle d'Augustin. Vous savez que Bonaventure est un homme d'ordre. C'est quelqu'un qui a une vision extrêmement claire de toutes ces matières. Alors, je ne pourrais en indiquer que les grandes lignes, bien sûr. Qu'est-ce qu'un homme spirituel selon Bonaventure ? Est-ce que c'est un homme qui a évacué la chair ? Non, pas plus que chez Irénée. L'homme spirituel est corporel. Il continue d'assumer, comme le dit Bonaventure, les réalités inférieures, c'est-à-dire les réalités terrestres. Et il le fait même mieux que les hommes, que ceux que Paul appelle les hommes psychiques, qui ne vivent pas de l'Esprit de Dieu. Je cite Exaïméron, donc les conférences sur les six jours de la création, conférence 23. Bonaventure est en train à ce moment-là de parler de l'amplitude de la vie spirituelle, de l'état où l'on goûte la présence de Dieu. Et il dit ceci, la sagesse et la charité de l'homme spirituel le font monter vers les réalités supérieures et descendre vers les réalités inférieures. Fin de citation. Autrement dit, l'homme spirituel, c'est celui qui réalise, d'abord en lui-même et autour de lui, c'est celui qui réalise l'union du ciel et de la terre, ou encore l'union de Dieu et de la création tout entière. On voit bien le modèle de François d'Assise derrière. Et c'est pourquoi le type même de l'homme spirituel, in fine, c'est le Christ lui-même, celui qui réalise l'unité du ciel et de la terre, et plus encore l'unité du Créateur et de la créature. Alors comment cela peut-il s'accomplir? Évidemment, Bonaventure mentionne sans cesse les moyens habituels par lesquels l'Esprit de Dieu vient vivre en nous, c'est-à-dire la prière et les sacrements. Mais pour mettre en valeur ces moyens qui sont à notre disposition, le docteur Séraphique a développé une doctrine de la hiérarchisation de tout l'être. Alors ce mot de hiérarchie, nous le comprenons mal en général, il ne nous parle pas beaucoup. En fait, c'est l'équivalent grec de la sanctification. La hiérarchisation, et Bonaventure dit que le Christ est le hiérarque suprême, la hiérarchisation, c'est cet ensemble d'actes par lesquels nous retrouvons notre structure, notre colonne vertébrale intérieure, notre verticalité, et du coup, notre élan et notre dynamisme, notre élan vers Dieu, cette rectification de tout notre être. Pour rétablir en nous cette verticalité par laquelle nous devenons une échelle entre le ciel et la terre, eh bien, il nous faut nous exercer longuement à nous laisser refaire par la grâce de l'Esprit-Saint. Et c'est là, en fait, toute la matière de ce magnifique passage du Breviloquium dont nous parlions encore ce matin, la partie 5 du Breviloquium qui est consacrée à la grâce. La manière dont la grâce vient s'insérer avec une infinie délicatesse et de manière toujours singulière et infiniment adaptée à chacun, la manière dont la grâce vient s'insérer dans notre vie. Dans cette cinquième partie du Breviloquium, Bonaventure reprend en particulier l'image d'Augustin, selon laquelle la grâce de Dieu doit pouvoir chevaucher le libre arbitre comme un cavalier son cheval dans une parfaite harmonie. Et c'est pourquoi les actes de l'homme spirituel, dit Bonaventure, je le cite, sont totalement œuvre de la grâce et totalement œuvre du libre arbitre. Évidemment, cela ne se fait pas en un jour. Et Bonaventure a eu l'occasion à de multiples reprises de retracer les étapes de cette hiérarchisation ou de cette sanctification. Il a proposé en ce sens plusieurs itinéraires. Je ne vais en évoquer qu'un seul, c'est celui qu'il expose dans l'itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu, où nous avons une proposition de recréation, de hiérarchisation, de réfection complète. Il s'agit tout d'abord de réparer notre sensibilité et notre affectivité dans les deux premiers chapitres, notre rapport à la création sensible. L'âme réapprend alors à habiter son corps. Le corps réapprend la docilité à l'égard de l'âme. Et il l'apprend d'autant mieux que l'âme apprend la docilité à l'égard de l'Esprit de Dieu. Donc il y a une, une unification progressive du corps avec l'âme et de l'âme avec l'Esprit de Dieu. Bonaventure avait remarqué cela en étudiant la vie de saint François. Je cite la légende majeure, l'une des deux vies de saint François que Bonaventure a composée. Le saint, donc il s'agit de saint François, le saint, parvenu à cette pureté qui unit la chair à l'esprit, alors l'esprit ici c'est l'âme, hein, cette pureté qui unit la chair à l'esprit et l'esprit à Dieu dans une merveilleuse harmonie, se voyait obéi à son tour par ordre de Dieu lorsqu'il exprimait un désir ou une volonté par la créature soumise au Créateur. Alors c'est un très beau passage parce que on voit dans cette citation que l'harmonisation du corps et de l'âme va de pair avec l'harmonisation de l'âme et de l'Esprit de Dieu et aussi avec l'harmonisation de l'homme avec la création. C'est comme ça que les premiers biographes de saint François expliquent que les animaux aient eu une attitude de docilité et d'obéissance vis-à-vis de François. Les animaux lui obéissaient parce que lui-même était devenu parfaitement obéissant à l'Esprit de Dieu. Donc c'est une harmonisation générale. Donc ça, c'est pour les deux premières étapes. Dans les deux étapes suivantes de l'itinéraire, l'âme apprend à connaître ses puissances et la trace de Dieu en elle. Donc il est question de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté, qui sont l'image du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Donc là, on voit l'héritage augustinien. Et surtout, Bonaventure montre comment les vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité, viennent se greffer sur ces trois puissances, c'est-à-dire la mémoire, la foi qui vient se greffer sur l'intelligence, l'espérance sur la mémoire et la charité sur la volonté. Et à leur tour, donc on voit qu'on monte, hein, c'est comme une sorte d'échelle, à leur tour, les dons de l'Esprit-Saint, auxquels Bonaventure a consacré de magnifiques conférences, viennent animer ce nouveau composé humain qu'est l'homme spirituel. Ce degré de hiérarchisation ultime, Bonaventure l'appelle, comme saint Irénée, la ressemblance. Et c'est cette ressemblance qui nous permet d'être véritablement unis à Dieu et de vivre par lui, avec lui et en lui. Je cite le Breviloquium, j'ai presque fini, hein, ne vous inquiétez pas. Donc Breviloquium partie 5. L'âme n'est pas élevée au-dessus d'elle-même en un endroit de l'espace, mais par une qualité déiforme, c'est-à-dire par quelque chose qui lui, une qualité particulière qui fait qu'elle porte la ressemblance de Dieu. Il est donc nécessaire à l'esprit rationnel, à l'âme, pour devenir digne de l'éternelle béatitude, de participer à cette influence déiforme qui donne la forme de Dieu, si l'on peut dire. Or, cette influence déiforme, parce qu'elle est de Dieu, selon Dieu et pour Dieu, rend l'image de notre esprit semblable à la bienheureuse Trinité. On peut donc l'appeler, je saute quelques lignes, on peut donc l'appeler l'image de recréation, puisqu'elle fait qu'on possède la ressemblance de Dieu. En outre, parce que celui qui jouit de Dieu possède Dieu, avec la grâce qui par sa déiformité dispose à la jouissance de Dieu, et donner le don incréé qu'est l'Esprit Saint. Donc on voit bien, ici, Bonaventure distingue en quelque sorte deux étapes, la hiérarchisation qui nous rectifie jusqu'au sommet de notre être, et lorsqu'on est fin prêt, eh bien, l'Esprit Saint peut demeurer en nous de manière pleine, au point que tout ce que nous faisons est en même temps une œuvre divine. Donc c'est l'aboutissement du processus de hiérarchisation et de la grâce baptismale, c'est-à-dire le moment où l'âme devient, je cite Bonaventure, « temple de Dieu, épouse du Christ, fille du Père éternel ». Donc pour Bonaventure, comme pour Irénée et Augustin, la vie humaine, vous le voyez, ne s'accomplit pas dans la seule perfection des facultés naturelles, l'animal rationnel des philosophes grecs et latins. Cela ne correspond en fait qu'à un premier degré de notre développement. qui est très important évidemment puisqu'il offre la possibilité d'être élevé au degré suivant. Mais être un animal rationnel ne suffit pas. Lorsque Bonaventure est amené dans son commentaire des sentences à expliquer ce qui fait la dignité de la personne humaine, il dévoile d'abord ce premier degré traditionnel de la rationalité. Il dit ben, « notre dignité réside dans le fait que nous sommes des animaux rationnels et grâce à cela nous sommes capables de Dieu », comme disait Augustin. Mais ensuite, dans un deuxième temps, Bonaventure fixe son regard sur le Christ et il ajoute que le Christ lui-même, en tant qu'homme uni à Dieu, nous indique l'horizon ultime de notre dignité, qui n'est pas seulement celui de l'image, mais celui de la ressemblance, qui n'est pas seulement la capacité d'être en relation avec Dieu, mais l'union effective avec lui. Non pas seulement l'homme psychique, autrement dit, mais l'homme spirituel. D'où ma conclusion. Tel me semble être le sens ultime de l'anthropologie chrétienne en général et de l'anthropologie bonaventurienne en particulier. Non seulement décrire la beauté et la dignité des différents éléments qui nous composent, mais montrer surtout comment ils font l'objet d'une histoire, d'une dynamique particulière, d'un travail de la grâce et de nous-mêmes, et comment montrer comment ils peuvent être recomposés, restructurés, assainis, illuminés par l'Esprit de Dieu pour que nous commencions enfin à vivre. Et pour finir, je cite une très courte phrase de Bonaventure à la toute fin de ses conférences sur les six jours de la création. Donc c'est l'une des dernières phrases de Bonaventure que nous ayons, qui résume un peu ce qu'il a voulu faire. Là est l'arbre de vie. Ici, l'homme goûte la vie. J'ai voulu vous conduire jusqu'à cet arbre de vie. Je vous remercie.